Sébastien Lecornu s'est adressé directement aux Calédoniens, une vidéo de 12 minutes dans laquelle le Premier ministre fait le point sur le dossier. Et parmi les réactions, celle de Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription était l'invité du magazine Transparent ce midi. À 1945-2026, plusieurs commémorations organisées ce vendredi à l'occasion du 81e anniversaire de la victoire de 45, notamment à Nouméa et à La Foix. Un rendez-vous festif ce week-end sur le territoire. Boulou Paris accueille sur son hippodrome la fête du cerf et de la crevette. À l'international, de nouveaux passagers du MV Ondus testés positifs à l'antivirus. Le navire de croisière navigue en ce moment vers les îles Canaries. Le sport avec cette très belle performance de Théo Delande aux Océania de natation. Le nageur du CNC a décroché le bronze sur le 10 000 mètres en eau libre. Et puis le rendez-vous sportif du week-end, c'est au Mans que ça se passe. Le Grand Prix MotoGP de France qui succédera à Johann Zarco. Réponse dimanche soir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, cette citation. Les élections provinciales se tiendront et le dialogue devra reprendre au lendemain de l'annonce de la fixation de la date des provinciales, mais aussi de la proposition d'ajuster le corps électoral en l'ouvrant aux natifs et aux conjoints. Le Premier ministre s'adresse directement aux Calédoniens. Une vidéo de 12 minutes dans laquelle Sébastien Lecornu fait le point sur le dossier calédonien. Jean-François Bodin.
Le Premier ministre rappelle d'abord le pacte de refondation, puis le rejet du Parlement de la réforme constitutionnelle sur l'accord de Bougival, avant de marteler que le statu quo n'est pas un destin.
La tentation du statu quo est facile. Il est même, disons-le, une pente naturelle à ce moment de notre histoire institutionnelle calédonienne. Il peut être aussi le faux mirage ou le faux synonyme du calme ou de la stabilité. C'est une erreur, car le statu quo ne donne plus de perspective à personne. Le statu quo enferme progressivement. Il ne peut être une base solide pour l'avenir. Il peut être même le ferment demain de la violence, et c'est une ombre qui ressurgit sur le caillou. Le statu quo n'est pas un destin, c'est une fatalité, voire même peut-être pour certains une facilité. Il condamne les aspirations des formations indépendantistes. Il bloque le processus de décolonisation. Il éteint les perspectives léguées par les anciens. Le statu quo n'est pas un destin.
Le statu quo condamne aussi la stabilité économique et précipite vers le déclin, sans apporter de réponse aux attentes de celles et ceux qui vivent et sont durablement attachés à la Nouvelle-Calédonie, peu importe leur date d'installation, et qui aspirent à participer pleinement à sa vie démocratique, ajoute Sébastien Lecornu, qui parle ensuite de l'organisation des élections provinciales. Le scrutin se tiendra avec des garanties de neutralité et de sécurité, affirme le Premier ministre, en évoquant aussi la question du corps électoral.
Pour organiser sereinement ce scrutin, les partis ont pu, tout en constatant leur désaccord d'approche, et ce, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, envisager différentes hypothèses d'une diminution du nombre d'exclus au sein du corps électoral provincial. Bien entendu, nous savons tous, ces discussions sont sensibles, mais elles ont eu lieu avec calme, transparence et beaucoup de respect. Je vous le disais, le statu quo n'est pas un destin. Et ces élections provinciales doivent marquer le refus de ce statu quo. Et le refus de ce statu quo est la promesse pour chaque parti de poursuivre le dialogue au lendemain des élections provinciales. Mieux qu'une promesse, c'est même une garantie.
Sébastien Lecornu détaille ensuite le processus législatif qui va s'engager pour faire adopter la proposition de loi organique qui ajuste le corps électoral.
Le gouvernement va donc saisir dès aujourd'hui le Parlement d'un texte organique qui permettra, s'il est voté, d'inclure les natifs, mais aussi d'ajouter les conjoints des électeurs dans le corps électoral provincial. Dans le même temps, je souhaite que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie puisse s'exprimer sur ce texte organique. Je vais donc le saisir, et les présidents des deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, pourront le faire également s'ils le souhaitent. Le débat parlementaire aura lieu dans les deux chambres. C'est une étape décisive sur le chemin du destin commun. Car nous parlons là de vos enfants. Ils sont nés sur le sol calédonien, y ont grandi. Ils ont voté aux trois consultations référendaires. Ils doivent donc pouvoir voter aux élections provinciales. Je le dis avec beaucoup de respect, c'est du bon sens. Ce sont aussi vos maris ou vos femmes. Ils vous ont choisis. et avec vous, ils ont choisi la Nouvelle-Calédonie. C'est un critère reconnu par le droit international d'acquisition de la citoyenneté. Et pour la première fois, vous le savez, l'État a donné en transparence les chiffres demandés par tous les acteurs politiques depuis des années. 37 492 citoyens français sont exclus de la liste électorale pour le scrutin provincial calédonien, dont 10 569 natifs. Et parmi ces natifs, 4 145 citoyens de statut civil coutumier. Ces 10 569 natifs seront inscrits d'office sur les listes électorales. Les conjoints devront, quant à eux, faire une demande d'inscription.
Il s'agit bien d'un ajustement, insiste Sébastien Lecornu. Cet ajustement est un petit pas, mais c'est le début d'un chemin.
Certains jugeront que c'est un pas insuffisant. D'autres diront au contraire que c'est déjà trop. Mais le dégel n'est pas possible. Il ne réunit pas de majorité au sein du Parlement et le gouvernement propose donc cet ajustement. Car une fois de plus, le statu quo n'est pas possible car il n'est pas souhaitable. Car peut-être même pour la première fois, le statu quo en la matière pourrait même devenir dangereux pour l'avenir. S'il n'y a pas de consensus sur un dégel, un compromis est toutefois possible, je le sais, sur cet ajustement. C'est un petit pas, mais c'est le début d'un chemin. L'histoire du dossier calédonien a toujours été d'avancer, même quand le pas est petit, il faut savoir s'y engager.
Les élections provinciales se tiendront et le dialogue devra reprendre, ajoute Sébastien Lecornu. Tous les partis politiques calédoniens s'y sont engagés. Il annonce qu'il sera amené à venir sur place en Calédonie ou à rencontrer les partis à Matignon dès le mois de juillet.
Alors viendra le temps du projet pour préparer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il débutera dès juillet et devra aboutir avant la fin de l'année. Vous savez tous les risques qu'il y a à laisser dériver le destin de la Nouvelle-Calédonie dans le tumulte d'une campagne présidentielle. Il faudra donc sortir de la logique binaire, d'un oui ou d'un non, qui a réduit le débat politique au seul sujet institutionnel et qui a enfermé parfois les Calédoniennes et les Calédoniens. L'État proposera des projets en lien avec les différentes forces vives du Caillou, pour l'économie, pour lutter contre les inégalités, pour donner un avenir à l'industrie du nickel, pour développer les politiques de santé, d'éducation, de culture, pour protéger la nature et les richesses du sol calédonien, pour vous protéger contre les menaces que fait peser le réchauffement climatique, par exemple notamment sur le trait de côte, pour lutter contre les violences intrafamiliales et en particulier celles commises contre les femmes ou les enfants. Bref, pour construire un destin pour toutes et tous, les Calédoniennes et les Calédoniens seront consultés directement sur ces projets. Une ou plusieurs consultations de projets pourront être organisées et vous vous exprimerez.
Le meilleur antidote à la violence, c'est la démocratie, ajoute le Premier ministre qui conclut cette adresse aux Calédoniens en réaffirmant l'engagement de l'État envers la Calédonie.
Nicolas Metzdorf trouve totalement insuffisante l'ouverture du corps électoral proposé par le Premier ministre, mais il votera le projet de loi organique. Le député de la première circonscription était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il est revenu, Jean-François Baudin, sur les récentes déclarations de Sébastien Lecornu.
Nicolas Metzdorf en est persuadé. Le Premier ministre n'a pas fait cette proposition d'ouverture du corps électoral aux natifs et aux conjoints en fonction des Calédoniens. Il l'a fait en fonction de l'intérêt de l'État et de l'Assemblée nationale. Pour le député de la première circonscription, Sébastien Lecornu veut dire dans son adresse aux Calédoniens qu'il n'y est pour rien et qu'il a fait en sorte d'avoir une proposition qui puisse être votée par l'Assemblée nationale.
Et donc je crois que plutôt que de mener une négociation avec les Calédoniens, Sébastien Lecornu a dû mener une négociation avec les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Avec les trois grands blocs finalement. Avec le bloc de droite, le Rassemblement national notamment. Le bloc central, les macronistes plus la droite LR. Et le bloc de gauche, dont le Parti socialiste. Et je pense qu'il est arrivé à la conclusion que ne pouvait être voté par ces blocs qu'une ouverture du corps électoral avec les natifs et les conjoints. Ce qui, moi, m'inquiète encore plus que si ce n'était que la position du gouvernement. Parce que si c'est que la position du gouvernement, on peut dire, bon, bah, c'est les macronistes, etc. Mais comme c'est la représentation nationale de l'ensemble des tendances politiques de la France qui sont à l'Assemblée, de voir qu'on ne peut faire voter que l'ouverture des natifs et des conjoints par l'ensemble de la gauche et de la droite, finalement, en passant par le centre, c'est quand même inquiétant dans la mesure où cette représentation nationale ne nous considère pas comme des Français comme les autres après les trois référendums pourtant.
En métropole, le dossier calédonien est vu sous l'angle de la violence, affirme Nicolas Metzdorf, et il explique qu'en conséquence, les élections provinciales vont être sécurisées et que la Calédonie aura les renforts nécessaires en force de l'ordre. Mais interrogé sur la proposition de corps électoral ajusté, il juge cette ouverture totalement insuffisante.
On est très loin de notre revendication. Alors, il y en a qui voient le verre à moitié plein, qui est de dire ben, on ne fait pas une élection avec le gel du corps électoral. Il y a quand même plus de gens qui vont voter à ces élections provinciales-là que toutes les dernières depuis 2007 et le gel du corps électoral. Donc c'est une avancée, ce n'est pas une reculade du camp de la France. Mais pour moi, pour nous les loyalistes, c'est une avancée totalement insuffisante qui ne pourra pas nous empêcher de continuer à revendiquer l'ouverture du corps électoral beaucoup plus large qu'on souhaite depuis le début, c'est-à-dire d'avoir un système glissant. Parce qu'en fait, on reste dans un système gelé aujourd'hui, sauf qu'on ouvre, on élargit aux conjoints et aux natifs. Mais tant qu'on ne revient pas à un système glissant, pour nous, le combat ne sera jamais fini. Je pense que c'est important de le dire. Parce que si on donne l'impression de se satisfaire totalement de cette annonce de M. Lecornu, on risque d'enterrer notre combat. Et moi, je ne veux pas qu'on enterre notre combat. On peut considérer que c'est un crantage. Vous savez, les indépendantistes, toujours nous, on crante. On peut considérer que pour nous, c'est un premier cran. Mais ce premier cran doit en amener plusieurs autres.
Nicolas Metzdorf va essayer d'amender le texte lors de son passage à l'Assemblée nationale en défendant un système glissant, même s'il sait que cela ne passera pas. Sur le fond de la loi organique, il relève que tous les natifs seront inscrits automatiquement, mais que l'on ne sait pas qui sont les conjoints ni quelles seront les modalités d'inscription. Et il précise qu'il fera en sorte qu'il y ait le moins de critères possible. Après son passage au Parlement, la loi organique devra encore être soumise au Conseil constitutionnel et il y a une incertitude sur le résultat, estime Nicolas Metzdorf.
J'espère que le Conseil constitutionnel ne va pas retoquer, sous la pression des indépendantistes, l'ouverture aux conjoints. Parce que c'est ça le risque. Je pense que les natifs, ça va passer. Mais l'innovation de Sébastien Lecornu, quelque part, c'est d'avoir ajouté les conjoints. Et j'espère que le Conseil constitutionnel ne va pas retoquer ça. Parce qu'il va y avoir, attention, la machine de la gauche qui porte le FLNKS en métropole va se mettre en marche. Et là, il y a du juriste, il y a du juge, il y a du spécialiste en droit international, il y a du journaliste, il y a du politique. La machine va se mettre en route pour expliquer que c'est un passage en force, que c'est une recolonisation, que le FLNKS est contre le même discours qu'on a entendu 20 000 fois. Ils vont se mettre en route. Et il faudra être solide. Nous, on le sera, mais il faudra que le Conseil constitutionnel soit solide aussi.
Une seule certitude, tout va devoir aller très vite et le calendrier est très contraint. Mais le Premier ministre envisage déjà l'organisation de discussions après les élections provinciales. Les loyalistes refuseront d'y participer s'il n'y a pas eu d'évolution du corps électoral, déclare le député de la première circonscription, qui affiche un désaccord avec le Premier ministre.
Je suis en désaccord avec Sébastien Lecornu. Quand il dit le statu quo n'est pas une option, eh bien, cher ami, monsieur le Premier ministre, si. Parce qu'en fait, le statu quo, ça s'appelle la Calédonie française. Et nous, on est plutôt heureux d'être dans le statu quo. Le seul truc qui nous gêne dans le statu quo, c'est le gel du corps électoral. Mais le statu quo, fondamentalement, on vient de voir qu'on demande des milliards encore d'euros à l'État. On est sous perfusion pour relancer notre économie, pour relancer notre emploi, pour relancer nos systèmes sociaux, nos systèmes de santé. Donc, considérer que le statu quo garantit qu'on est français et que les compétences sont gérées par l'État, ça me semble pas être une mauvaise décision compte tenu de la situation de la Nouvelle-Calédonie. Donc moi, je suis en désaccord avec Sébastien Lecornu quand il dit que le statu quo n'est pas une solution. Nous, on voudra bien discuter si et seulement si on fait des efforts sur l'ouverture du corps électoral.
Et dans la perspective des prochaines élections provinciales, Nicolas Metzdorf appelle à l'union la plus large des partisans de la France qui n'ont plus le luxe de la division.
Aujourd'hui, le rapport de force, il est entre non-indépendantistes et indépendantistes. Et donc, si on se divise dans le camp non-indépendantiste, on ouvre la voie à la gestion de la Nouvelle-Calédonie par les indépendantistes et voire même la gestion de la province sud par les indépendantistes. Donc, on n'a pas le luxe, on n'a plus le luxe démographique et démocratique de la division. Donc, il faut qu'on ramène déjà notre principal partenaire, notre principal allié avec qui on a tout fait, l'institutionnel, le congrès, la province sud, quel rassemblement ? Nous, il faut qu'on fasse l'union avec le rassemblement d'Alcide Ponga. C'est fondamental. Et donc, on tend la main, on est en discussion avec eux pour que ça aboutisse. Mais il ne faudra pas que le rassemblement d'Alcide Ponga. Je vois qu'il y a des initiatives qui se montent aujourd'hui. De gens qui, par exemple, ont été contre l'accord de Bougival. Je pense à un mouvement qui se lance volonté calédonienne. Il faut qu'on discute aussi avec ces personnalités-là. Il ne faut pas les écarter d'un revers de main. Parce que fondamentalement, il y a des nuances entre nous. Il y en a qui sont plus départementalistes, d'autres plus autonomistes. Mais on veut tous la Calédonie française et on veut tous que les Calédoniens aient un passeport français. La question, c'est quelle répartition des compétences. Mais on veut tous la même chose. Et je crois que fondamentalement, il y a suffisamment de place sur une liste pour que tout le monde ait l'occasion de pouvoir dire quelque chose dans cette campagne.
Interrogé enfin sur le déplacement à l'invitation du gouvernement du Vanuatu d'une délégation FLNKS, Nicolas Metzorf parle de honte absolue. Pour lui, c'est de l'ingérence et il faut cesser toute coopération avec le Vanuatu qu'il qualifie de colonie chinoise. Ce sont, dit-il, les nouvelles hébrides chinoises.
Une interview de Nicolas Metzorf à retrouver en audio et en vidéo sur notre site internet. Elle sera aussi rediffusée dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Et puis notez ce rendez-vous politique du week-end. Le Palika se réunira demain et dimanche pour un congrès extraordinaire à la tribu de Willis à Vaud. Durant deux jours, plusieurs points seront évoqués, notamment les stratégies pour les provinciales ou encore l'avenir institutionnel. Le MEDEF-NC réagit à la présence d'une délégation du FLNKS au Vanuatu. Il y a quelques jours, une mission conduite par le président du FLNKS est rendue sur l'archipel voisin pour participer à un forum économique. Problème, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, seule autorité compétente pour représenter le territoire à l'extérieur, n'a pas été associé à la démarche. Ce déplacement a donc suscité de vives réactions. Le MEDEF-NC, également invité au forum, apporte des précisions, Charlotte Coulson.
Ses représentants ont été invités effectivement à participer à ce forum économique et se sont effectivement rendus au Vanuatu. Mais le mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie précise dans un communiqué qu'à aucun moment il n'a été informé d'une dimension politique associée à cet événement. Une fois sur place, les chefs d'entreprise calédoniens ont constaté que l'événement ne correspondait pas au cadre qui leur avait été présenté. Ils ont alors immédiatement décidé de quitter le forum ainsi que le territoire vanuatais, peut-on lire dans ce communiqué. L'organisation patronale déplore que ses adhérents aient pu se retrouver mêlés à leur insu à des enjeux qui dépassent le strict cadre économique. Elle rappelle que sa mission est exclusivement d'accompagner les entreprises calédoniennes dans leur développement économique en Nouvelle-Calédonie comme à l'international et qu'elle ne saurait être l'instrument d'une quelconque démarche politique.
Au chapitre des faits divers, à présent, la nuit dernière, au Mont-d'Or, le Carrefour Market de Robinson a été cambriolé à la voiture Bélier. Des individus ont utilisé cette voiture pour foncer sur la porte. Une fois à l'intérieur, ils ont essentiellement volé de l'alcool. Cela s'est passé vers 1h du matin. Une enquête est en cours pour retrouver les voleurs. À Saint-Louis, des automobilistes ont été caillassés vers 4h du matin sur la RT1 près du terrain de foot. Les gendarmes, qui ont aussi reçu des jets de pierre, ont tenté de poursuivre les assaillants sans succès. L'association des citoyens mondoriens réagit à cette nouvelle agression. Elle dit avoir saisi les représentants de l'État pour exiger un renforcement des dispositifs de sécurité sur l'axe de Saint-Louis, mais aussi un déploiement massif des forces de sécurité pour garantir la libre circulation et protéger la population. Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, la maire du Mont-d'Or affirme, elle, que la commune est pleinement mobilisée. Nina Julier explique avoir pris la tâche du commandement de la gendarmerie la nuit dernière et que les dispositifs de sécurité sont renforcés tout au long du week-end, mais aussi la semaine prochaine sur la commune du Mont-d'Or. 18h05, on marque une première pause avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tous les dimanches, retrouvez Canal Folie, votre émission dédicace avec l'OPT. L'OPT contribue chaque jour au développement et à l'aménagement du territoire pour simplifier le quotidien de tous les Calédoniens. OPT, le monde à portée de main.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Info soir, Léo Fichou.
La victoire du 8 mai 1945 commémorée à Nouméa. Une cérémonie s'est déroulée ce matin à 8h, place Bir Hakeim, au pied du monument aux morts, Charlotte Coulson.
Après Païta, Dimbéa et le Mont-d'Or hier, Nouméa a donc rendu hommage ce matin aux combattants et aux populations touchées par la Seconde Guerre mondiale. Un dépôt de gerbes a été effectué par les autorités civiles et militaires. Un temps de souvenir et un devoir de mémoire, souligne le maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
Ce qui est important, c'est le fondement et c'est le devoir de mémoire. De voir qu'on est ici avec des Calédoniens qui sont partis, qui se sont investis, répondus à l'appel de De Gaulle pour aller défendre un idéal qui était celui d'une France libre et avant tout de la liberté. Et donc ça, je crois que c'est quand même intéressant et c'est d'autant plus intéressant qu'on a des classes de défense et on a des jeunes qui s'investissent sur ce devoir de mémoire. Mais ça doit interpeller tout le monde des journées comme ça. Alors certes, c'est la victoire. Mais beaucoup de chez nous, un peu plus de 70 quand même de nos Calédoniens ne sont pas revenus. Les autres sont revenus, mais je crois qu'on ne doit pas oublier. Et c'est une séquence émotionnelle et c'est une séquence eh bien, de mémoire. Et donc c'est important d'être là.
L'occasion de rendre hommage au sacrifice de tous les Calédoniens tombés pour la patrie lointaine et si proche grâce à un travail d'archives mené par Éric Minocchi, président de l'Association pour la conservation du patrimoine militaire en Nouvelle-Calédonie. Six nouveaux noms ont pu être dévoilés sur le monument aux morts ce matin.
Ce travail date de quelques années où on avait commencé à faire des recherches pour des expositions à la Maison du Combattant. Et lors d'une de ces recherches, nous avons vu des coupures de journaux qui parlaient des gens mobilisés. Donc un tel part par tel bateau, un tel revient, un tel est prisonnier, un tel est affecté. Et notre camarade Marcelin Lacabane est le premier mort calédonien. Ah, ok, donc je vois ça et je me rends compte qu'il n'est pas sur le monument aux morts. Tiens, bizarre, alors qu'il a sa rue au Motorpool. Je suis là devant la pose du Motorpool. Bon, c'est étonnant. Le temps passe, je fais d'autres recherches, je tombe sur d'autres livrets et je me rends compte qu'en fait, on a d'autres personnes qui en fait, ont été oubliées. Et c'est l'objet aujourd'hui de ce rassemblement des noms qu'on a pu enfin mettre en lumière sur les plaques du monument aux morts. Il y a encore du travail derrière. J'ai quelques noms sous le coude, mais ça prend un petit peu de temps parce que, en fait, des fois, vous avez des livrets qui mentionnent un décès, mais il n'y a pas plus d'informations. Donc, des fois, il faut demander l'acte de naissance sur lequel on rajoute aussi souvent le décès. Et donc, c'est un travail de longue haleine parce que, il faut voir les mairies, il faut aller à droite, à gauche, ou voir trouver éventuellement des familles qui pourraient vous aider.
Et comme traditionnellement, lors de cette cérémonie, quatre élèves des classes défense des établissements Baudoux et La Pérouse ont lu des textes du général de Lattre de Tassigny et du général de Gaulle.
La célébration de la capitulation de l'Allemagne nazie, célébrée également à la fois, célébration un peu particulière pour la fin de l'exercice Tagata Toa 2026 et donc pour le 80e anniversaire du retour du bataillon du Pacifique à Nouméa en mai 1946. Lionel Sabot.
Oui, pour cette cérémonie présidée par le général de brigade Soubriel, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, et Sandrine Merckx, commissaire déléguée à la province sud, plusieurs centaines de militaires des FANC, mais aussi venus des États-Unis et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le cadre de l'exercice Tagata Toa, étaient présents près du monument aux morts. Sur le rang protocolaire, Steven Scauda, le maire de La Foy, Lionel Brinon, qui représentait la province sud, Jérémy Catidjo-Monnier, qui représentait lui le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des représentants de la gendarmerie nationale, des sapeurs-pompiers du SIVM Sud et les représentants des associations de mémoire. Une cérémonie à laquelle de très nombreux Lafoyens ont participé. Sandrine Merckx est commissaire déléguée à la province sud.
Et c'était vraiment un plaisir de présider avec le Comsub cette cérémonie. Et elle avait aussi un caractère un peu touchant et il y avait beaucoup d'émotions, je trouve, dans cette cérémonie. Et donc c'était très, très bien pour la Foy. C'est important justement ces cérémonies qu'elles ne se fassent pas dans un petit groupe d'anciens combattants et d'autorités. Le but de ces cérémonies, c'est que justement toute la population participe et qu'on passe cette mémoire du 8 mai et cette mémoire de l'implication aussi de la Nouvelle-Calédonie dans la Seconde Guerre mondiale. Et cette année, c'était vraiment un plaisir de voir beaucoup de monde rassemblé pour cette commémoration.
Catherine Merckx, commissaire déléguée à la province sud. Nous le disions en cette année 2026, cette cérémonie prenait un sens très particulier. Si c'est en 1945 que l'Allemagne nazie a capitulé, c'est en 1946, il y a donc 80 ans, que les volontaires du bataillon du Pacifique rentraient à Nouméa. Le général Soubriel, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
C'est le 8 mai 2026 et c'est aussi donc les 80 ans du retour du bataillon du Pacifique ici à Nouméa, le 21 mai 1946. Donc ce 8 mai a une connotation très particulière, avec une année mémorielle qui est vraiment ancrée dans cette mémoire des anciens, dans cet esprit de défense qu'on essaye aussi de transmettre aux jeunes, et puis surtout cette grande fierté de ces volontaires calédoniens qui sont partis en 1941 sans savoir exactement ce qu'ils allaient faire, et qui sont partis finalement pour 5 ans pour se battre, pour résister, et revenant ici il y a 80 ans.
Et au cours de cette cérémonie, une plaque commémorative a été dévoilée sur le monument aux morts de la foi, plaque en mémoire des Calédoniens tombés au champ d'honneur. Le capitaine Jérôme du bureau opération du RIMAPNC.
Tout au long de l'année 2026, dans le cadre des 80 ans 46-2026, 33 communes ont été volontaires pour apposer une plaque en l'honneur de nos anciens, des anciens du bataillon mixte du Pacifique, dont le RIMAP est l'héritier. Aujourd'hui particulièrement, 4 plaques ont été posées, notamment celle de La Foa, Moindou, Farino et Boulou Paris. Et c'est bien en honneur à la globalité des anciens que cette plaque est apposée.
Et j'ajoute que cette cérémonie s'est achevée par un défilé sur la RT1 au cœur même du village. Un détachement de militaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un détachement de l'US Marines et un détachement du RIMAPNC chantant. Le chant des volontaires ont traversé le village sous les applaudissements des habitants.
Et on le disait il y a quelques instants, hein, Lionel, ce 8 mai marquait également la fin de l'exercice Tagata Toa 2026 qui s'est déroulé pendant une dizaine de jours dans la grande région de La Foa.
Oui, un exercice interarmée qui a rassemblé les forces des armées de terre, de l'air et de l'espace et de la marine. Un exercice interallié également avec la présence d'unités, on le disait, américaines et de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a rassemblé plus d'un millier de soldats au total. L'objectif principal de cet exercice Tagata Toa 2026 était d'améliorer l'interopérabilité et la cohésion des forces au niveau de la grande région Pacifique. Exercice conduit par le Régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie, le RIMAPNC, le chef de bataillon de Fouchy et directeur de l'exercice.
Ça s'est extrêmement bien passé. On est très content du produit fini. La force a pu travailler avec l'ensemble des composantes des FANC. Et ensuite, on a pu associer à cet exercice donc nos alliés américains, nos alliés de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a aussi, au sein de l'île, pu agréger donc le RSMA. On a pu agréger des classes de défense, notamment à Bouraï. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un exercice d'une telle ampleur. Voilà, où on a traité le déploiement d'une force tant par des moyens amphibies qu'aéroportés. On est entraîné pour évoluer, pour combattre le jour, la nuit, sous le soleil, sous la pluie, dans la neige, dans le vent. Et là, c'est vrai que le ciel était de notre côté.
Tagata Toa était un exercice sur terrain libre, comme on le dit dans le jargon militaire, un type d'exercice de grande ampleur qui engendre une proximité avec la population et qui est planifié très en amont avec les municipalités, bien sûr, mais aussi avec les coutumiers. Hippolyte Tidjit fait tout au long de l'année le lien entre les coutumiers et les forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Nous sommes chargés d'organiser tous ces rencontres coutumières et toutes ces demandes d'autorisation qu'on puisse venir sur leur terre. La démarche militaire, tout d'abord, avant de faire l'exercice, voilà, aller voir les aires coutumières, les aires de Khalachou et les aires de Anjarou. Je remercie les coutumiers d'avoir accepté cet exercice sur La Foa, Bouraï, Moindou.
L'exercice Tagata Toa 2026 est donc terminé. Le prochain exercice d'ampleur se déroulera l'an prochain. Il s'agira évidemment de l'exercice Croix du Sud. D'ici là, l'actualité des FANC sera riche avec des commémorations. Les commémorations des 80 ans du retour du bataillon du Pacifique, mais aussi l'accueil dans quelques semaines du nouveau patrouilleur outre-mer, le Jean Tranap. Une arrivée alors que la Marine nationale fête cette année ses 400 ans et que la base navale de Nouméa fête son 75e anniversaire.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foa, Moindou, Farino, c'est le sang.
Passons à l'agenda culturel et festif du week-end qui sera marqué par l'édition 2026 de la fête du cerf et de la crevette qui animera Boulou Paris demain et dimanche, Charlotte.
Oui, c'est un rendez-vous incontournable. Les visiteurs seront attendus sur l'hippodrome de la commune à partir de 8h. Ils profiteront du rodéo prévu dimanche, mais aussi des jeux équestres, country, démonstrations de dépeçage de cerf. Sont aussi annoncés les traditionnels lancers de claquettes, courses de pneus, courses de sacs ou encore le tir à la corde. Avec plus de 120 exposants, il y aura bien sûr des dégustations de spécialités à base de cerf et de crevettes. Et vente de crevettes fraîches, les précisions du maire Pascal Vittori.
On s'est assuré d'avoir suffisamment de crevettes. On a un partenariat avec une ferme de crevettes qui, s'il le faut, organisera une pêche samedi après-midi pour pouvoir alimenter en crevettes dimanche matin. Ce qui change cette année, c'est qu'on n'aura pas un stand de crevettes, mais on aura une dizaine de stands qui vont vendre des crevettes, des stands culinaires. Donc, ce sera indiqué sur le circuit de la foire. Et puis, on aura un pêcheur de Boulou Paris qui pourra fournir des crevettes, mais aussi du poisson, du crabe et des huîtres de caillou. Caillou. Et puis pour ce qui est du cerf, on a la Sodevia donc qui va vendre de la viande de cerf fraîche. Les stands culinaires ont obligation de proposer des plats à base de crevettes et de cerf. C'est le cahier des charges obligatoire. Et puis bien sûr, comme d'habitude, on trouvera du saucisson de cerf, du jambon de cerf, du cerf en salade. Donc il y en aura pour tous les goûts. Et puis surtout, cette année particulièrement, le restaurant de la foire sera tenu par le Steakhouse de Tomo, qui est un restaurant boulou parisien réputé pour ses viandes et qui est alimenté par l'élevage bourgine.
La fête du cerf et de la crevette, c'est à partir de 8h demain et dimanche à l'hippodrome de Boulou-Paris. L'entrée, c'est 1000 francs par voiture et 500 francs pour les piétons.
Autre rendez-vous culinaire à Bouraille, cette fois la grande fête de l'igname organisée par le district de Nîmes. Les Calédoniens sont invités à partager un repas à la tribu de Huawei, mais aussi à assister à la coutume et autres activités prévues demain. L'accueil se fera à partir de 7h30. Du côté de Nouméa, le Tropical Market installera ses stands demain à Lansvata, et ce en face du nouveau parc de jeux sur le site de l'ancienne polyclinique. Les artisans vous feront découvrir de 9h à 17h leur création. Des animations et des ateliers sont également prévus sur place. Et puis, le Pacific Fair proposera demain le marché de la fête des mères à la galerie de Port-Plaisance de 9h à 18h, Charlotte.
Oui, c'est à l'occasion de la fête des mères et la galerie vous invite à une journée pleine de douceur et de jolies découvertes. Vous pourrez visiter les stands du marché, découvrir des idées de cadeaux originales et profiter de toutes les boutiques de la galerie pour trouver le cadeau parfait. Le marché de la fête des mères, c'est demain de 9h à 18h dans la galerie Port-Plaisance. Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer toutes les mamans.
Et puis on termine à Farino. Le traditionnel marché de mamie revient dimanche de 8h à midi sur la place de la mairie. Ce sera donc ce dimanche du côté de Farino. 18h passé de 18 minutes. Une nouvelle pause dans ce journal. L'actualité nationale et internationale dans quelques instants.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et à la une de l'actualité en métropole, l'émotion toujours très vive à Fère en Tardenois dans l'Aisne, 48 heures après le meurtre de Chloé, 14 ans. Le suspect, un ex-petit ami de la victime, a partiellement reconnu les faits en garde à vue. Un jeune homme de 23 ans dont les habitants de la commune dressent un portrait inquiétant, comme a pu le constater l'envoyé spécial d'Europe 1, Antoine Bienvaux.
Devant le collège de Fère en Tardenois, tout le monde semble connaître le suspect. Cet homme de 23 ans, ex-petit ami de Chloé, est surtout connu pour avoir déjà menacé plusieurs adolescentes de la commune. Cette maman le sait mieux que personne. Sa fille, amie de Chloé, en a elle-même été victime.
Il draguait ma fille alors qu'il était déjà avec la petite Chloé. Ma fille a prévenu Chloé en lui disant « Bah écoute, il me drague » et c'est là que ça lui a pas plu. Ma fille, elle m'a dit « Il m'a menacé de me foutre dans le coffre ». Même la prostituée, ça a été loin.
Des messages alarmants qu'Europe 1 a pu consulter et qui vont même parfois jusqu'à la menace d'un viol. En déposant une gerbe de fleurs, ses deux amis de Chloé reconnaissent la personnalité très trouble du suspect.
On savait comment il était, il avait 23 ans, il était plus âgé qu'elle.
Il l'attendait tous les matins, au même endroit justement.
Cet endroit dont parle la collégienne, c'est cette route non loin du collège où Chloé a été sauvagement tuée mercredi, un drame dont ne se remet toujours pas Nathalie.
C'est un choc, on ne peut pas imaginer que ça puisse arriver comme ça dans des petits villages. Pour la plupart, on se connaît tous, c'est juste une cruauté.
Une émotion palpable aussi chez les camarades de classe de Chloé, encore très marqués par le drame au moment de quitter l'établissement hier. Affaire en Tardenois, Antoine Bienvaux, Europe 1.
Les cellules d'écoute mises en place dans le collège de la victime resteront en place en début de semaine prochaine et autant de temps que nécessaire, c'est ce qu'indique le rectorat. Une petite tape affectueuse. C'est ainsi que Donald Trump qualifie les frappes iraniennes de la nuit, des attaques visant trois navires américains en transit dans le détroit d'Ormuz. Les missiles ont pu être interceptés avant d'atteindre leur cible. L'armée américaine a répliqué, prenant pour cible un pétrolier iranien. Les deux pays s'accusent donc mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Le MV Ondius navigue en ce moment vers les îles Canaries, arrivée prévue dimanche à Tenerife. Le navire de croisière ou un foyer d'antivirus a été détecté, ce qui met en alerte les autorités sanitaires mondiales. Trois passagers sont décédés depuis le début du voyage, il y a un mois. Depuis, les moindres symptômes sont scrutés et les cas contacts traqués. On a appris ces dernières heures que deux nouveaux passagers ont été testés positifs. Mathis Lang pour Europe 1.
Annonce faite par l'hôpital néerlandais qui a pris en charge ces deux évacués. Ils sont placés en chambre d'isolement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à ce jour, 5 cas d'antivirus ont été confirmés parmi 8 cas suspects signalés. Un chiffre qui pourrait être revu à la hausse compte tenu de la période d'incubation. Mais lors d'une conférence de presse hier après-midi, l'épidémiologiste Maria Van Kerkhove a tenu à rassurer. Le niveau de risque n'est pas comparable à celui du coronavirus.
C'est un virus très différent. Nous savons ce que ce virus. Nous connaissons l'antivirus depuis un moment. Il y a beaucoup de détails que nous savons, mais je veux être sans équivoque ici. Ce n'est pas le début d'une pandémie de Covid.
5 Français sont à bord du bateau. Ils sont en bonne santé. Dans un communiqué, 2 d'entre eux indiquent qu'il n'y a pas de panique à bord. Par ailleurs, un Français ayant voyagé en avion avec un cas confirmé de virus a été placé à l'isolement après l'apparition de symptômes bénins.
Mathis Lang pour Europe 1. 18h22, dernière pause dans ce journal, on parlera sport juste après.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Jusqu'au vendredi 29 mai, jouez avec Créator et tentez de gagner un magnifique collier en perles de Tahiti, un cadeau d'une valeur de 130 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Venez découvrir nos bijoux dans nos 3 magasins Créator, Centre-Ville Alma, Hyper Rue Païta et au 7ème kilomètre. Ouvert en continu toute la semaine et le dimanche jusqu'à 13h à Païta. Créator, c'est des bijoux pour toute la famille et tous les budgets, des bagues, des colliers, des perles et des diamants. Alors pour tenter de gagner ce magnifique collier en perles de Tahiti offert par Créator, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 29 mai à 14h, 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Le sport dans la région avec cette très belle performance signée Théo Delande en ouverture des Océania de natation au Fidji. Le nageur calédonien participait ce matin à la première épreuve aux 10 000 mètres en eau libre. Après plus de 2 heures d'efforts, Théo Delande a décroché la médaille de bronze derrière les représentants tahitiens et australiens. Il revient sur cette performance.
J'ai fini 3e de ces 10 km. Les deux premiers nageurs sont partis très fort lors du premier tour. Mais j'ai réussi à garder mon calme et ensuite à relancer pour rattraper et passer deuxième. Avec ensuite une continuité de course un peu compliquée sur les 2 derniers tours où j'ai fini avec l'Australien coude à coude et à la touche, j'ai fini troisième.
Cette performance de Théo Delande n'est pas une surprise pour son coach au Cercle des nageurs calédoniens Thibaut Marie.
On s'attendait à ce qu'il perce parce qu'on a bien augmenté la charge de travail ces dernières semaines, enfin surtout lui. Et je pense que ça va vraiment lui faire du bien de commencer la compétition comme ça, parce que ça fait 2-3 mois que c'est un petit peu dur pour Théo au niveau performance. Et là que ça se concrétise avec un bon début de compétition, c'est cool. Surtout en eau libre, on ne connaît pas du tout leur niveau. Alors je pense que ça lui a fait du bien de voir qu'il est capable d'aller jouer un peu avec les Australiens, en tout cas sur ce 10 000. À voir sur le 5000 et pour la partie bassin derrière. Théo très prometteur, il a progressé très tard, parce qu'il était assez petit quand il était jeune, et d'un coup il a une poussée de croissance. Donc il est en train de vraiment monter en puissance, et je pense qu'il faut compter sur lui pour les Jeux du Pacifique l'année prochaine.
Théo Delande en bronze, donc sur le 10 000 mètres en eau libre aux Océania au Fidji. Une épreuve, une médaille pour la délégation calédonienne, de bon augure pour la suite de la compétition. Compétition qui continue jusqu'à mercredi avec 9 Calédoniens engagés. On reste dans la région avec du football et du karting. En football, la deuxième phase de l'OFC Pro League continue ce week-end pour Tahiti United. L'équipe polynésienne et ses 3 Calédoniens sera opposée dimanche à 16h au PNG. Et puis en karting, on continue de prendre des nouvelles de Raphaël Gilles. Le jeune pilote calédonien participait à la 2e étape de la Golden Power en Australie. Après des résultats frustrants, il est engagé ce week-end sur l'Adélaïde Course Club. Le sport sur la scène nationale et internationale à présent, avec tout d'abord du rugby.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
La 23e journée du championnat de France de rugby débute demain soir à 23h30. La section paloise, 2e, reçoit le Castres Olympique, 10e. Dans la foulée, à 1h35, un multiplex avec 4 rencontres. Clermont-USAP, Aviron-Bayonne-UBB, Montpellier-Montauban et Stade Français-Loup. Dimanche matin à 6h, Toulon accueille le Stade Toulousain. Et enfin, lundi à 6h05, duel entre le Racing 92 et le Stade Rochelet. Du football également, avec la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Demain matin à 5h45, Lens accueille Nantes. Toutes les autres rencontres se joueront lundi matin à 6h. Angers-Strasbourg, Auxerre-Nice, Le Havre-Marseille, Metz-Lorient, Monaco-Lille, c'est un duel de haut tableau, PSG-Brest, Rennes-Paris-FC et enfin Toulouse-Lyon. On reste en métropole avec les sports mécaniques. Le circuit Bugatti du Mans accueille le Grand Prix MotoGP de France. Les essais libres débutent ce soir. Les qualifs sont prévus demain soir. La Sprint Race aura lieu à minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Le départ du Grand Prix de France MotoGP donc sera donné dimanche soir à 23h. Pour rappel, l'an passé, c'est le tricolore Juan Zarco qui s'était imposé à domicile. Un mot du WRC avec le rallye du Portugal. Après 3 spéciales, c'est Oliver Solberg qui est en tête. Le Suédois devance 2 Français, Adrien Fourmeau 2e et Sébastien Ogier 3e. Et puis la saison des grands tours cyclistes débute ce soir avec le Giro, 109e édition du Tour d'Italie. Les 3 premières étapes ont lieu en Bulgarie. La première se fera en douceur, 147 km à la découverte des routes bulgares sur les bords de la mer Noire. Une étape promise aux sprinteurs.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Et on termine donc cet agenda sportif du week-end sur le territoire avec du karting. Ce sera dimanche sur le circuit de Nakutakwin. La première manche du championnat de Nouvelle-Calédonie se disputera toute la matinée. En moto, la course d'endurance organisée par le club de Païta qui devait avoir lieu le 25 avril a été reportée à demain. Ça se passera toute la journée sur la propriété Cheval à La Tamois. Du football avec un match en retard de Super League. Demain à 15h, Yengensport recevra Tigasport. Pendant qu'en futsal, 4 rencontres sont au programme du week-end à la salle de Lanzvata. 3 demain, 1 dimanche. En athlétisme, les épreuves du championnat de Nouvelle-Calédonie Open et Jeunes se disputent aujourd'hui et demain au stade Nomadélé. Et puis en badminton, les championnats Province Sud en simple ont lieu ce week-end à la salle Ernest Wayo de Dimbéa. Les jeunes demain, puis les adultes dimanche. 18h29 après le sport, la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière et cette nuit, eh bien la nuit dans l'ensemble bien étoilée. Quelques passages nuageux circulent sur l'extrême nord, au Loyauté et sur l'île des Pins, mais les ondées sont rares. Sur l'extrême nord, le vent d'est se maintient autour de 10 nœuds et sur les autres régions, il est généralement proche de 5 nœuds, de secteur variable et les températures minimales varient de 17 à 23 degrés, localement 14 à 16 degrés dans l'intérieur et aux îles.
Merci beaucoup Ismaël, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.